Chapitre 15.
Dégage ta caisse, connard!
L'insulte frappa Sébastien alors qu'il dépassait un groupe de sans-abri qui fouillait dans les poubelles du Pizza Hut de Frederick Street. Têtant leurs canettes de bière planquées dans un sac en craft, ils marquaient leur territoire en invectivant les passants et les conducteurs qui les regardaient de trop près.
Face de rat!
Un gobelet plein s'écrasa sur le pare-brise. Sébastien remonta sa vitre et actionna les essuie-glaces. Charmant. Il mettait les pieds dans cette partie de la ville pour la première fois, et sans doute aussi la dernière, espérait-il. Des parfums de cuisine portoricaine flottaient dans l'air graisseux, des rythmes caribéens s'échappaient des fenêtres, des drapeaux dominicains ornaient le perron des maisons. Nul ne pouvait ignorer bien longtemps que Bushwick était un fief latino. Tentaculaire, le quartier s'étendait sur des dizaines de blocs et avait gardé un côté rugueux. Les colonies de bobos qui avaient investi Williamsburg n'avaient pas encore déferlé sur le secteur. Ici, pas de jeunes friqués, d'artistes à la mode ou de restaurants bio, mais une succession d'entrepôts, de maisons aux toits de tôle, d'immeubles en briques, de murs couverts de graffitis et de terrains vagues envahis de mauvaises herbes. L'avenue était large et presque déserte. Sébastien repéra le boomerang, mais préféra garer la Jaguar dans une ruelle parallèle. Il verrouilla sa voiture et regagna Frederick Street alors que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber, rendant Bushwick gris et triste. Le boomerang n'avait rien d'un lounge cosy et branché, c'était un rade de banlieue sinistre et crade qui servait du whisky premier prix et des sandwichs au pain de viande à $2. Scotché au rideau de fer, une pancarte indiquait que le débit de boisson n'ouvrait ses portes qu'à partir de 17h. Pourtant, le volet métallique était ouvert aux trois quarts, permettant d'accéder à la porte d'entrée de l'établissement. Sébastien toqua contre la vitre fumée alors que la pluie s'intensifiait. Pas de réponse. S'enhardissant, il remonta complètement la grille et essaya d'ouvrir la porte. Elle ne résista pas. Trempé par l'averse, il hésita un court moment. L'endroit était sinistre et la pièce plongée dans la pénombre. Finalement, il se décida à entrer en prenant soin de refermer derrière lui pour ne pas risquer d'être repéré par des passants. « Il y a quelqu'un ?» demanda-t-il en avançant prudemment. Après seulement quelques pas dans la pièce, il porta la main à sa bouche. Un relent infect l'avait pris à la gorge et lui retournait l'estomac. Des effluves ferrugineux, une odeur obsédante, violente, celle du sang. Il fut tenté de fuir, mais domina sa peur. Il recula contre le mur, chercha à tâtons un interrupteur. Lorsque la lumière glauque se répandit dans la pièce, il fut saisi d'effroi. Le bar était repeint à l'hémoglobine. Le parquet maculé de taches noires et collantes, les murs de briques aspergées de mélasse pourpre, les boiseries souillées. Les éclaboussures avaient atteint jusqu'aux étagères qui débordaient de bouteilles derrière le comptoir. Un véritable carnage. Au fond de la pièce, un homme gisait dans une mare de sang.
Drake Decker ?
Le cœur de Sébastien bondit dans sa poitrine, hors de contrôle. Malgré la panique et l'écœurement, il avança vers le cadavre. Couché sur le dos, un corps énorme et mutilé se vidait de son sang. Le billard sur lequel se trouvait la dépouille ressemblait à un autel, une table liturgique élevée pour un obscur sacrifice. Le mort était un colosse chauve et moustachu dont le poids dépassait allègrement le quintal. Bedonnant, poilu, il avait l'allure de certains membres des Beers, une branche de la communauté homosexuelle affichant une virilité bien assumée. Autrefois couleur kaki, son pantalon de toile était imbibé de sang noir. De sa chemise à carreaux, largement ouverte sur son torse et son ventre, débordaient des viscères. Intestins, foie, estomac s'étaient amalgamés pour former une bouillie poisseuse et visqueuse. Sébastien ne put résister davantage. Main sur les genoux, il vomit la bile âcre et jaunâtre qui remontait de son estomac vide. Il resta quelques secondes dans cette position, trempé de sueur, le visage brûlant, en apnée. Il surmonta pourtant son affolement. Un portefeuille dépassait de la poche de la chemise. Sébastien parvint à extraire l'étui en cuir et vérifia le permis de conduire. Il s'agissait bien de Drake Decker. Alors qu'il cherchait à remettre le portefeuille en place, le corps de Drake fut parcouru d'une convulsion. Sébastien sursauta. Le sang bourdonnait contre ses tempes. Ultime contraction post-mortem ? Il se pencha vers le visage sanguinolent. Le cadavre ouvrit brutalement les yeux. Sébastien recula et étouffa un cri. « Et merde !» Drake était peut-être à l'article de la mort, mais le souffle de sa respiration se mêlait au mince filet de sang qui s'échappait de sa bouche. Que faire ? Panique, étourdissement, sensation d'étouffement. Il sortit son portable et composa le numéro d'appel d'urgence. Il refusa de décliner son identité, mais réclama une ambulance à l'adresse du 17 Frederick Street. Il raccrocha et se fit violence pour regarder de nouveau le visage et le corps de Drake. Visiblement, on avait torturé le Beer sans lui épargner aucun supplice. Le sang avait transpercé le drap de laine qui recouvrait la plaque d'ardoise du billard. Les bords capitonnés faisaient office de rigoles qui drainaient des flots d'hémoglobine jusque dans les poches de la table. À présent, l'homme était bien mort. Un reflux acide fulgurant lui brûla l'œsophage. Sébastien avait la bouche sèche, ses jambes flageolaient. Les idées se brouillaient dans son esprit. Il fallait qu'il se dépêche de quitter les lieux. Il réfléchirait plus tard. En vérifiant qu'il n'abandonnait rien derrière lui, il repéra sur le comptoir une bouteille de bourbon posée à côté d'un verre à moitié plein. Un zeste d'orange et deux gros cubes de glace flottaient dans le whisky. Il s'arrêta sur ce dernier détail. Qui avait bu dans ce verre ? Sans doute le boucher qui avait torturé Drake. Mais si les glaçons n'avaient pas fondu, cela signifiait que l'agresseur venait à peine de quitter les lieux. Voir qu'il était toujours dans la pièce. Alors qu'il se ruait vers la porte, il entendit un craquement. Il se figea. Et si Jérémy était prisonnier de ce cloaque ? Il se retourna et aperçut une ombre glisser derrière un paravent laqué. Surgissant derrière les panneaux de bois, un colosse se précipita sur lui. Peau cuivrée, carrure épaisse, visage tatoué comme un guerrier maori, il tenait dans la main un couteau de combat à lame à double tranchant. Tétanisé, Sébastien resta cloué sur place. Il ne leva même pas les bras pour se protéger lorsque la lame s'abattit sur lui.